Merci à tous en tout cas d'être avec nous pour cette journée de l'ingénierie. On a parlé IA, on a parlé low-tech, on a abordé beaucoup de sujets. Dernier sujet que nous allons aborder ce soir s'intéresse à la géo-ingénierie pour freiner le dérèglement climatique. S'agit-il d'un problème ou d'une solution? Vous vous doutez que je n'ai pas la réponse, mais qu'en revanche, quelqu'un là, probablement, il est avec nous, c'est François Gémen, qui va nous éclairer pendant la demi-heure qui vient, avant de nous rejoindre pour le dernier débat qui portera sur l'ingénierie. Est-ce qu'elle permet justement de s'adapter ou non au changement climatique? À tout de suite.
Bonsoir et merci beaucoup. Alors, vous avez choisi un sujet très compliqué. Et vous avez choisi un sujet qui génère beaucoup, beaucoup de controverses et qui va en générer encore davantage dans les années à venir, tant c'est un sujet qui se prête évidemment aux polémiques, et tant c'est un concept qui est également un concept polysémique, c'est-à-dire que derrière ce concept de géo-ingénierie, on va mettre en réalité plusieurs technologies qui sont souvent très différentes l'une de l'autre. Et donc dans cet exposé, je vais essayer à la fois de préciser un peu de quoi on parle, pourquoi cela fait polémique, et je crains de ne pas pouvoir trancher définitivement la question qui m'a été posée, est-ce un problème ou est-ce une solution? J'ai envie de vous dire que ça peut être les deux à la fois, et tout dépend de l'usage qui en sera fait. Nous sommes aujourd'hui face à la géo-ingénierie, c'est-à-dire un terme générique qu'on utilise généralement pour désigner toutes les techniques de manipulation artificielle du climat, et vous verrez que ce terme peut englober des techniques assez vastes et diversifiées. Nous nous trouvons aujourd'hui, par rapport à la géo-ingénierie, un peu dans le même état d'esprit, je dirais, que celui des négociations internationales sur le climat au cours des années 90. Pendant les années 90, personne ne voulait discuter d'adaptation aux impacts du changement climatique. Et la question de l'adaptation aux impacts du changement climatique était encore un sujet tabou, parce qu'on craignait qu'en discutant de l'adaptation aux impacts du changement climatique, on ouvre la boîte de Pandore et on ne met ainsi à disposition des gouvernements et des entreprises un prétexte pour leur éviter de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc il y avait dans la négociation sur le climat deux positions. Il y avait à la fois les pays du Sud qui, au nom du réalisme, plaidaient pour qu'on discute de l'adaptation aux impacts du changement climatique, et cela disait: vous ne pouvez pas fermer les yeux sur la réalité, vous ne pouvez pas fermer les yeux quant au fait que nous subissons déjà de plein fouet les impacts du changement climatique, et donc nous avons besoin de financement pour nous aider à gérer ces impacts du changement climatique. Nous avons besoin qu'on commence à discuter des solutions qui nous permettraient de nous adapter à ces impacts. Et de l'autre côté, vous aviez beaucoup d'observateurs occidentaux et notamment beaucoup d'ONG qui disaient « surtout pas ». Malheureux, qu'allez-vous faire si jamais vous discutez d'adaptation? Vous allez fournir une bonne excuse au gouvernement et aux entreprises pétrogazières pour ne pas réduire leurs émissions. Parce qu'ils vont se dire, à quoi bon réduire nos émissions si l'on peut s'adapter aux impacts du changement climatique? Pas besoin de faire quoi que ce soit. Et puis, le réalisme a prévalu, et à partir des années 2000, on a commencé à discuter d'adaptation face aux impacts du changement climatique. C'est à la fois une nécessité qui nous était évidemment imposée par la réalité de ces impacts, mais c'était aussi, il faut le reconnaître, la reconnaissance que, d'une certaine manière, nos efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre étaient insuffisants et ne nous protégeaient pas des impacts du changement climatique. Et pendant très longtemps, cette question d'adaptation a été réservée aux pays du Sud, et ce n'est que récemment, à partir du début des années 2020, qu'en Europe, on s'est aperçu de notre propre vulnérabilité et donc de la nécessité de discuter pour nous aussi d'adaptation, de développer des plans, des politiques d'adaptation, Parce que, bien entendu, les impacts du changement climatique que nous allions subir en Europe de notre vivant ne dépendaient pas uniquement de nos décisions à nous, mais dépendaient également des décisions des autres, de ceux qui étaient là avant nous et de ceux qui se trouvent hors de nos frontières. Et donc l'adaptation s'est imposée comme une forme de nécessité. Et les pays du Sud, ensuite, ont constaté qu'il y avait des limites à l'adaptation et qu'il y avait des impacts par rapport auxquels il était impossible de s'adapter et qui résultaient en des pertes et dommages directs et quantifiables. Et les pays du Sud ont demandé que l'on prenne en compte cette question des pertes et dommages liées au changement climatique et que l'on compense financièrement ces pertes et dommages qui étaient bien réels parce que, à certains endroits, l'adaptation ne suffisait pas et que l'on touchait clairement les limites de l'adaptation. Et vous le savez, lors de la COP27 et puis de la COP28, on a décidé de créer ce fonds pour les pertes et dommages, et donc les pays du Sud ont eu gain de cause par rapport à un sujet dont ils réclamaient à corps et à cri la concrétisation depuis le milieu des années 2000. Et donc c'était l'aboutissement pour les pays du Sud d'un combat de 20 ans que soit reconnue la réalité de ces pertes et dommages. Et c'est évidemment aujourd'hui une des pierres angulaires de ce qu'on appelle la justice climatique, mais c'est en même temps aussi, il faut le reconnaître, l'aveu, l'admission que nous touchons parfois aux limites de l'adaptation, qui elle-même est une reconnaissance des limites de la décarbonation. Et nous nous trouvons désormais face à une nouvelle limite, notamment face à l'insuffisance de nos politiques de décarbonation, où bien entendu, il y a des baisses d'émissions réelles qui ont été actées. Depuis 15 ou 20 ans, la quasi-totalité des pays industrialisés enregistrent une baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais pour autant, cette baisse n'est pas suffisamment rapide, pas suffisamment conséquente, que pour ne pas être compensée par l'augmentation des émissions dans les pays du Sud et particulièrement des pays émergents, c'est-à-dire de pays qui sont jusqu'ici assez peu responsables du problème. Et donc, à l'évidence, nous ne sommes pas aujourd'hui sur une trajectoire qui nous permettrait de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Raison pour laquelle il y a des voix de plus en plus fortes qui s'expriment en disant, au fond, ne faudrait-il pas recourir à certaines technologies de manipulation artificielle du climat de manière à éviter le pire. Puisqu'à l'évidence, nos politiques de décarbonation ne sont pas suffisamment rapides, ne sont pas suffisamment conséquentes, ne faut-il pas être réaliste et envisager d'autres solutions, et notamment la manipulation artificielle du climat. C'est par exemple une position qui est défendue par James Hansen, un des pères de la climatologie moderne, l'un des premiers climatologues à avoir sonné l'alerte, notamment lors d'une audition restée célèbre devant le Sénat américain, et James Hansen qui a effectué les premiers travaux de modélisation climatique, qui est considéré quasiment comme une sorte de Dieu le Père dans la communauté des climatologues, est sur cette position. Considère que, effectivement, manipuler artificiellement le climat serait en quelque sorte un moindre mal par rapport aux impacts catastrophiques qui vont s'en suivre si nous restons sur la trajectoire actuelle. D'autres, à l'inverse, qu'on va trouver tant parmi la communauté des chercheurs, y compris des climatologues, et surtout parmi les ONG, vont estimer que cette position est suicidaire et revient à abandonner tout simplement les efforts de décarbonation. Et que, là encore, on fournirait une excuse, un prétexte à tous ceux qui ne voudraient pas engager davantage les efforts de décarbonation, alors que nous avons aujourd'hui absolument toutes les technologies, et le GIEC le rappelle dans son dernier rapport, nous avons aujourd'hui toutes les technologies, toutes les connaissances et même toutes les ressources financières qui doivent, qui peuvent nous permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, je pense que si nous voulons discuter sereinement de ce sujet, le préalable indispensable est d'arrêter, comme cela se fait parfois, de diaboliser l'autre camp et de ne voir dans les tenants de l'une ou l'autre position que des gens stupides ou inféodés aux intérêts fossiles. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce problème, il y a quelques années, j'étais très marqué par la lecture de ces deux ouvrages que vous voyez à l'écran. L'un considère que la géoingénierie est, sinon la solution, au moins une des solutions à déployer aussi rapidement que possible. Celui de droite, à l'inverse, considère que la géoingénierie est une folie pure, et que nous nous improviserions démiurges et que ce serait le franchissement absolu d'une ligne rouge. L'un est écrit par le responsable des pages environnement du respecté magazine The Economist, l'autre est écrit par un philosophe australien. Je les connais tous les deux personnellement, et je peux vous assurer que tous les deux sont parfaitement engagés dans la logique de décarbonation. L'un comme l'autre sont tout autant préoccupés des dangers et des impacts du changement climatique. Ni l'un ni l'autre n'est lié au moindre intérêt de l'industrie fossile. Et chacun a écrit un livre extraordinairement convaincant. Si vous lisez celui de gauche, vous allez être convaincu qu'il faut déployer immédiatement des solutions de géoingénierie. Et vous allez chercher sur Internet quelles sont les sociétés qui développent des solutions et vous allez tout de suite souscrire des actions de ces sociétés. Si vous lisez celui de droite, vous allez chercher sur Internet les adresses de ces sociétés et vous allez aller manifester devant leur siège et faire un sit-in et entamer une grève de la faim pour que jamais on ne déploie ces technologies. Et donc, je conseille vivement la lecture de chacun de ces livres. Je vous conseille simplement, si vous lisez un, de lire également l'autre. Mais il y a un livre que je vous conseille plus que tout et qu'on va voir à la diapositive suivante. C'est celui-ci. Le Schtroumpfeur de pluie, une histoire des Schtroumpfs qui date de 1969, que je considère sincèrement comme le meilleur livre qu'on ait écrit sur le sujet. C'est une lecture imposée pour mes étudiants tant à Sciences Po qu'à HEC. Pour ceux d'entre vous qui le cherchent ou qui voudraient le retrouver à la maison, c'est la deuxième histoire après le Cosmos Schtroumpf, qui est aussi une superbe histoire et une très belle réflexion sur la technologie. Et donc, c'est l'histoire qui suit le Cosmos Schtroumpf. Et je ne vais pas vous dévoiler tous les tenants de l'histoire, mais en gros, voilà comment ça se passe. Le Schtroumpf bricoleur a inventé une machine qui permet au Schtroumpf de choisir la météo qu'il fera sur leur village. Et au début, tous les Schtroumpfs trouvent ça absolument formidable. Pensez, vous allez pouvoir choisir la météo, vous débarrasser de cette sale pluie qui tombe sur Lyon aujourd'hui, et au contraire, choisir un grand soleil. Le problème, c'est que les Schtroumpfs ont des intérêts divergents par rapport à la météo. Le Schtroumpf paysan voudrait de la pluie pour ses cultures. Le Schtroumpf poète, au contraire, voudrait du soleil pour trouver l'inspiration à l'extérieur. Et les Schtroumpfs vont se mettre à chacun guider la machine selon leurs propres intérêts. Tant et si bien que les Schtroumpfs vont évidemment se disputer et qu'il va y avoir un énorme conflit au sein du village des Schtroumpfs et la machine va être sans cesse manipulée elle-même, tant et si bien que la machine va se dérégler. Alors, je ne vous livre pas la fin de l'histoire, vous irez voir vous-même, soit dans la bibliothèque de vos enfants, soit en librairie, mais cet album des Schtroumpfs pose en réalité toutes les questions fondamentales que nous devons nous poser sur la question de la géoingénierie. Est-ce que nous maîtrisons les effets secondaires de ces technologies? Qui a le droit d'utiliser la machine, qui a le droit de choisir la météo et potentiellement le climat? Comment fait-on pour prendre une décision ensemble? Et la question éthique fondamentale, est-ce que nous avons le droit de manipuler ainsi le climat, ou est-ce que nous nous improviserions des murges? Et je vais venir à toutes ces questions, mais avant, il me semble utile, dans la diapositive suivante, de préciser de quoi nous parlons. Et j'imagine que je m'adresse à un public, sinon d'ingénieurs, au moins de gens intéressés par les techniques, les sciences et les technologies, mais je crois quand même utile de repréciser de quoi nous parlons, parce qu'en réalité, derrière ce terme de géo-ingénierie, on va souvent mettre des technologies qui sont très très différentes les unes des autres. Et vous avez ici sur ce dessin synthétique une sorte de résumé, de condensé des principales techniques qui sont discutées en ce moment et qui globalement se répartissent en deux catégories. Vous avez d'abord une catégorie de techniques qui vont chercher à capturer du carbone et à le stocker. En d'autres termes, à retirer du carbone de l'atmosphère et à le stocker généralement sous terre. Vous avez un autre ensemble de techniques qui, au contraire, va chercher à manipuler les radiations solaires de manière à faire baisser la température. Les premières cherchent à faire baisser les concentrations de carbone dans l'atmosphère. Les secondes cherchent à faire baisser les températures. Je dois d'abord préciser que les secondes sont infiniment plus controversées que les premières, même si les premières ne sont pas à l'abri de controverses. Et donc, parmi les techniques qui sont envisagées ou déjà déployé pour capturer du carbone, vous avez des techniques qui vont permettre d'accroître la quantité de carbone qui peut être captée par les sols. Par exemple, via du biochar, qui est un engrais organique produit à partir de déchets de la biomasse, et ce biochar est un engrais organique qu'on va donc mettre dans les sols et qui va permettre à la fois au sol de capter davantage de carbone, de stocker du carbone, et qui a aussi l'avantage de rendre ces sols plus humides et plus fertiles. Mais vous avez aussi des techniques industrielles, plus artificielles, pour capter ce carbone, notamment lorsque vous allez faire ce qu'on appelle de la capture et du stockage de carbone, CCS en anglais, Carbon Capture and Storage, qui vise notamment à capter le carbone émis par des sites industriels et ensuite à l'enfouir sous terre. C'est déjà une technique qui se pratique en France, notamment autour de gros sites industriels à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer, où le carbone est capturé, placé dans des containers et ensuite envoyé par bateau en Norvège, où là, il est stocké dans le sous-sol profond. Alors, c'est quelque chose qui est peu connu. Si ça l'était davantage, je pense que ça susciterait davantage de controverses et de reportages sensationnalistes à la télévision. Mais effectivement, aujourd'hui déjà, des pays comme la Norvège stockent sous terre d'importantes quantités de carbone. Vous avez également des techniques qui apparaissent comme tenant davantage de la science-fiction, qui vont chercher, par exemple, à planter des forêts artificielles de manière à créer un effet artificiel de photosynthèse qui ferait que ces arbres artificiels capturent le carbone de l'atmosphère. Et puis, vous avez des techniques assez basiques de reboisement, tout simplement, qui vont chercher à augmenter le couvert forestier sur Terre et donc à augmenter la capacité des arbres, des forêts, à capter du carbone et à rejeter en échange de l'oxygène. À côté de ces techniques qui visent donc à capturer du carbone, vous avez d'autres techniques plus controversées encore qui visent à... Non, pardon, avant ça j'oublie de vous parler de la technique la plus controversée pour capturer du carbone, qui consiste à fertiliser artificiellement les océans. Vous savez que les océans absorbent à peu près un quart du carbone que nous émettons chaque jour, et les océans l'absorbent essentiellement grâce aux micro-organismes qui vivent dans l'océan, notamment le krill et le plancton. C'est pour cela, par exemple, que les baleines sont des puits de carbone importants, puisqu'une baleine, au cours de sa vie, va ingérer des tonnes et des tonnes de krill, et donc également des tonnes et des tonnes de carbone, et que lorsque la baleine va mourir, son cadavre va venir se déposer au fond de l'océan, et donc le carbone va redevenir fossile grâce à la décomposition du cadavre de la baleine dans le sous-sol de l'océan. C'est pour ça, et je le dis au passage, que la question de la protection des baleines n'est pas seulement une affaire de biodiversité, c'est aussi une question fondamentale pour le climat. Et donc, l'idée qui est venue à certains consistait à fertiliser artificiellement les océans pour qu'ils prolifèrent le plancton et le krill, ce qui fonctionne assez bien, ce que vous pouvez faire même assez simplement, et certaines ONG s'y sont essayées. Le problème, évidemment, si le plancton et le krill prolifèrent dans l'océan, c'est que vous allez avoir une sorte de perturbation complète de la chaîne alimentaire et de la biodiversité marine, et que si on pousse le raisonnement jusqu'à l'extrême, le risque, ça serait d'avoir des océans qui deviendraient totalement acides, où les animaux, notamment les animaux à coque, ne pourraient plus vivre, et d'avoir à terme un océan qui soit rempli de plancton, de krill et d'algues, mais où il n'y ait plus de poissons, ni d'autres organismes vivants. À côté donc de ces techniques de capture du carbone, il y a des techniques de manipulation des rayonnements solaires et qui vont viser à faire baisser la température. Alors certaines d'entre elles sont peu ou pas controversées. Par exemple, des techniques qui visent à augmenter l'effet d'albédo, ce phénomène naturel, physique, qui fait que les couleurs claires ont tendance à renvoyer le rayonnement solaire, alors qu'à l'inverse, les couleurs sombres ont tendance à l'absorber. C'est la raison pour laquelle il est recommandé, notamment dans les villes qui font face au risque de vagues de chaleur, de peindre des toits d'immeubles en blanc de manière à ce qu'ils reflètent la chaleur du soleil plutôt que de l'absorber. Et nous avons en France plusieurs industries, plusieurs entreprises qui se sont spécialisées dans le développement de ces peintures d'un type nouveau qui visent à refléter les rayons du soleil. Certains souhaitent pousser la logique plus loin et proposent de peindre en blanc des montagnes, des champs, d'énormes surfaces, de manière à créer artificiellement cet effet d'albédo. Parce que bien entendu, ce n'est pas réservé au toit des immeubles. Il est possible de peindre d'autres éléments en blanc. C'est par exemple une question importante sur les cours de récréation des écoles. Pour éviter qu'elles ne chauffent trop et que les écoliers ne soient exposés à de trop hautes températures, on recommande désormais d'utiliser des enrobés de couleurs plus claires de manière à créer un petit effet d'albédo dans les cours de récréation. C'est plus compliqué par contre à envisager pour les routes, notamment pour des questions de sécurité routière et d'éblouissement des automobilistes. D'autres techniques sont encore beaucoup plus controversées, notamment l'injection, ou plutôt l'éjection de particules de soufre dans l'atmosphère. C'est une idée qui avait été émise pour la première fois par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, qui avait proposé effectivement qu'on injecte dans l'atmosphère des particules de soufre de manière à faire baisser la température. En d'autres termes, il s'agissait de simuler jour après jour l'équivalent d'une éruption volcanique, et vous savez qu'un des effets des éruptions volcaniques, c'est de faire baisser la température localement et temporairement. L'idée était d'envoyer de grandes quantités de soufre dans l'atmosphère pour créer chaque jour l'équivalent d'une éruption volcanique massive. Le gros problème de cette technique, c'est que outre de potentiels effets sur la santé publique qui avaient été peu mesurés jusqu'ici, le problème de cette technique, c'est que dès l'instant où vous arrêtez, la température remonte en flèche. Et que donc vous avez quelque chose qui devient absolument létal si jamais vous arrêtez, ne serait-ce que pour un jour, d'envoyer des particules de soufre dans l'atmosphère. Et puis, la technique la plus controversée de toutes consiste à envoyer dans l'espace des grands miroirs qui permettraient de refléter les rayons du soleil, ou alors, alternative, des membranes qui relieraient des satellites entre eux. On pense notamment aux satellites de Starlink, la société d'Elon Musk qui fournit Internet un peu partout dans le monde. L'idée serait de potentiellement relier ces satellites par une membrane de manière à créer une ombre artificielle sur Terre et là aussi de faire baisser la température. Et donc vous voyez que entre la municipalité qui va peindre en blanc les toits de certains immeubles ou utiliser un enrobé plus clair pour sa cour d'école et des méchants de James Bond qui vont envoyer des miroirs dans l'espace ou relier par des membranes des satellites entre eux, il y a un peu un grand écart. Pourtant, toutes ces techniques font partie de ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire, en sachant que certaines d'entre elles sont en réalité déjà pratiquées. C'est évidemment le cas pour les peintures blanches, c'est aussi le cas pour la pluie artificielle et plusieurs pays régulièrement recourent à la pulvérisation de cristaux d'argent dans les nuages de manière à créer des pluies artificielles. C'est une technique qui est également pratiquée en France, notamment dans les vignobles du Bordelais, je pense notamment à des producteurs de sauternes qui effectivement, lorsqu'il ne pleut pas suffisamment, vont affréter un petit Cessna qui va faire le tour du vignoble et qui va provoquer une averse sur le vignoble. C'est pratiqué à beaucoup plus grande échelle, on le sait, par d'autres pays, par la Chine, par les Émirats Arabes Unis, etc. Et certains disent, au fond, c'est peut-être une solution à des problèmes de sécheresse ou à des problèmes de désertification. Pourquoi y a-t-il des gens qui meurent de sécheresse et de faim alors que nous pouvons désormais faire pleuvoir artificiellement? Et on voit bien que derrière ce vocable de géo-ingénierie, en réalité, on va souvent placer des techniques qui sont, et des technologies qui sont extrêmement différentes les unes des autres, à la fois dans leur portée sur le climat, à la fois dans leur amplitude, parfois locale, parfois mondiale, et également dans les capacités qui sont nécessaires à les déployer. On va voir à la diapositive suivante. Ce qui est remarquable avec certaines d'entre elles, c'est que ce sont des technologies qui sont parfois à la portée du premier venu. En d'autres termes, il est possible parfois à n'importe qui et parfois à faible coût et avec des solutions d'ingénierie très très low-tech de déployer des solutions d'ingénierie. Tel cet ingénieur qui envoyait des sondes remplies de soufre dans la haute altitude ou cette ONG qui avait au large de Vancouver affrété un bateau pour fertiliser artificiellement l'océan sur une zone découverte. Et donc, même si dans l'esprit de beaucoup, quand on parle de géo-ingénierie, on va parler de high-tech qui va nécessiter des moyens considérables en recherche, en développement et en expérimentation, en réalité, pour certaines de ces techniques, nous parlons littéralement de low-tech, c'est-à-dire de technologies à faible coût avec de faibles nécessités en termes de recherche et de développement. En caricaturant à peine, n'importe qui peut aller au Castorama du coin, acheter ce qui est nécessaire et développer sa propre technique de géo-ingénierie. Et donc, le fait que cette technologie soit à la portée de tous, eh bien, cela soulève évidemment des questions importantes, parce que ce ne sont pas des technologies qui sont uniquement dans les mains des gouvernements, ce ne sont pas des technologies qui sont déployées uniquement par des armées, ce sont des technologies qui peuvent être déployées par des groupes privés, par des entreprises privées, par des ONG, voire même carrément par des individus isolés et non contrôlés. Comme je vous l'ai dit à la dia suivante, nous avons certaines de ces technologies qui sont peu ou pas controversées. La question du biochar, par exemple, aujourd'hui apparaît comme effectivement une technique qu'il faut pousser parce que on n'y voit à peu près que des avantages. C'est à la fois un engrais naturel qui peut remplacer des pesticides et des engrais artificiels, qui permet de valoriser des déchets de la biomasse, qui permet de stocker davantage de carbone dans les sols, qui permet donc de fournir un revenu additionnel aux agriculteurs et qui permet de surcroît de rendre ces sols plus fertiles et plus humides et donc potentiellement plus résistants face aux impacts du changement climatique. Et on voit que c'est une technologie qui permet à la fois de viser des objectifs de décarbonation, mais aussi des objectifs d'adaptation, puisque les sols sont plus fertiles et que donc les cultures deviennent plus résistantes face aux impacts du changement climatique. La question, c'est évidemment la question de la disponibilité de la biomasse pour produire ce biochar, et même si on déployait massivement du biochar à la surface de la Terre, on estime néanmoins que le potentiel de ce biochar reste limité de l'ordre de quelques pourcents des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui ne veut certainement pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et clairement, chaque pourcent va compter. Si on peut réduire, grâce au biochar, les émissions mondiales de 3, 5 ou 10%, c'est déjà ça de prix et c'est énorme. Autre technologie qui n'est quasiment pas controversée, c'est évidemment le fait de pouvoir peindre vos toitures ou d'autres surfaces en blanc ou en couleur claire. Et comme je le disais, plusieurs entreprises françaises se sont spécialisées dans ces types de peintures d'un genre nouveau. Et là encore, on fait appel à la technologie pour effectivement rafraîchir les habitations et donc rafraîchir également les villes. En réalité, je pense que, et on va le voir à la diapositive suivante, que si on veut essayer de synthétiser les enjeux qui nous sont posés par la géo-ingénierie, il est utile de se poser trois types de questions. D'abord, qu'est-ce que nous maîtrisons en termes de technologie? En d'autres termes, est-ce que nous maîtrisons parfaitement les effets secondaires qui sont associés à cette technologie? Est-ce qu'on sait ce qui se passerait si jamais la machine tombait en panne ou s'il y avait un problème? Est-ce que nous sommes obligés de mettre en place cette technologie continuellement, jour après jour, ou est-ce qu'une intervention ponctuelle suffit? En d'autres termes, quel est notre degré de maîtrise de cette technologie? Sur la question du biochar ou des peintures réfléchissantes, jusqu'ici, on n'a guère identifié d'effets secondaires néfastes, sinon peut-être le fait de réduire un peu de ce fait une certaine forme de nécessité de réduire nos émissions. Sur d'autres technologies, je pense par exemple à l'émission de grandes quantités de soufre dans l'atmosphère ou à la création d'une ombre artificielle sur la Terre, on mesure encore mal et peu les conséquences en termes de santé publique. Quel serait par exemple l'effet d'une baisse de luminosité sur Terre sur la santé mentale, les dépressions et les suicides? Voilà un sujet qu'on n'a pas encore véritablement traité. Et donc, le premier des sujets, c'est un sujet technologique. Jusqu'à quel point peut-on maîtriser cette technologie? Un autre type d'enjeu qui est évidemment directement connecté, c'est la question des enjeux éthiques. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on considère que la géo-ingénierie est un moindre mal? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on va considérer que c'est le franchissement d'une ligne rouge? Un argument qui me semble éventuellement pertinent à entendre, c'est celui de ceux qui disent qu'au fond, le changement climatique en lui-même est déjà une forme de manipulation artificielle du climat. Et donc, cela dit, au fond, nous avons manipulé artificiellement le climat comme nous ne l'avons jamais fait, en envoyant massivement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, si nous l'avons manipulé dans un sens, pourquoi, au fond, nous interdirions-nous de le manipuler dans l'autre sens? Si le changement climatique est déjà en soi une forme de géo-ingénierie, pourquoi ne pourrait-on pas déployer des techniques de géo-ingénierie contraires pour essayer de ramener le climat à une plus grande stabilité et d'éviter les effets qui soient les plus néfastes? Alors, sur cette question éthique, chacun, évidemment, aura sa propre opinion en fonction de son système de croyances et de valeurs. Jusqu'à quel point a-t-on le droit de manipuler l'environnement? Et je dirais que c'est une réflexion, au fond, très personnelle, qu'il sera très difficile, à laquelle il sera difficile d'apporter une réponse définitive, comme sur beaucoup de questions éthiques. Pourtant, ça nous amène à la troisième question. Parce que même sur des questions éthiques qui sont très personnelles, il y a des moments où les parlements doivent légiférer. Chacun aura son opinion sur l'euthanasie, par exemple. Pourtant, vient sans doute un moment où les parlements devront légiférer sur la fin de vie, et c'est un sujet qui, vous le savez, se pose en France. Est-ce que, en tant que société, nous autorisons l'euthanasie, ou est-ce que nous considérons qu'il s'agit d'un tabou et qu'en autorisant l'euthanasie, nous franchirions une ligne rouge? Et d'un point de vue éthique, évidemment, chacun ici dans cette salle aura son opinion sur le sujet. Et il ne m'appartient évidemment pas de juger telle ou telle opinion. Par contre, vient un moment où le Parlement devra légiférer. Et c'est évidemment la question qui se pose aussi en matière de géo-ingénierie. Est-ce qu'il faut autoriser certaines techniques? Et si on les autorise, lesquelles? Et surtout, qui a le droit de déployer ces techniques? Est-ce qu'on considère que ces technologies sont du seul ressort des gouvernements? Est-ce qu'on considère, au contraire, que des entreprises privées, voire même des individus ou des ONG, ont également le droit d'y recourir? Et surtout, est-ce qu'on considère qu'il faut une décision unanime de la Commission internationale avant d'y recourir? Ou est-ce qu'on considère que chaque gouvernement peut y recourir selon ses propres intérêts? Parce que, bien entendu, il y a aussi un potentiel conflictuel derrière l'utilisation de ces technologies. Que se passerait-il si deux pays étaient en désaccord profond, comme les Schtroumpfs, sur la technologie à déployer? Que se passe-t-il si un pays déploie une technologie qui a des effets potentiellement dévastateurs ou catastrophiques dans d'autres pays? Et vous vous souviendrez des inondations catastrophiques qui ont eu lieu il y a quelques mois à Oman, notamment, et où certains avaient émis l'hypothèse affirmée depuis, mais hypothèse légitime, que ces inondations auraient pu être dues à la fertilisation de nuages par les Émirats Arabes Unis et que ça soit une opération de géo-ingénierie qui est mal tournée, dont les effets n'aient pas été bien contrôlés et qui ait créé des inondations dévastatrices dans le pays voisin qui ont occasionné plusieurs dizaines de victimes. Alors, l'hypothèse a été infirmée. Reste qu'elle était plausible. On peut tout à fait imaginer qu'un pays manipule le climat à son avantage et crée de ce fait des conséquences dévastatrices dans les pays voisins. Qui décide de cela? En sachant que les niveaux d'investissement, comme vous le voyez, sont très 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 différents selon les pays, et encore ce sont les investissements connus, il est très vraisemblable qu'à côté de ces investissements connus, il y ait toute une série d'autres investissements qui ne nous soient pas connus. Et donc, on ne peut pas séparer complètement ces trois types de questions, parce que les questions de gouvernance sont évidemment intrinsèquement liées aux questions éthiques, et les questions éthiques sont évidemment intrinsèquement liées aux questions technologiques. Le problème, c'est que, à l'heure actuelle, comme on le voit dans la dernière diapositive, à l'heure actuelle, tout est permis. En d'autres termes, rien n'est interdit. Vous pouvez, en sortant, aller au Castorama du coin et faire votre petite expérience de géo-ingénierie. Personne ne vous dira rien, parce que pour le moment, ce n'est pas du tout un cas qui a été prévu dans le droit international. Et donc, à l'heure actuelle, rien n'est interdit, ce qui veut dire que ce sont des techniques qui sont disponibles pour chacun. Alors, évidemment, on se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas interdire ou autoriser certaines d'entre elles. Et c'est une question délicate parce que beaucoup ont peur que dès l'instant où l'on va commencer à discuter officiellement de ce sujet, eh bien on va mettre son doigt dans l'engrenage et on sera forcément amené à autoriser certaines de ces techniques. À l'heure actuelle, la seule chose qui existe, c'est une initiative prise par la France dans le cadre du Forum de Paris pour la paix, qui, vous le savez, est une manifestation annuelle qui se tient chaque année aux alentours du 11 novembre. Et dans le cadre de cette initiative pour la paix, la France a mis en place une curieuse commission, peu connue du grand public, la commission du dépassement climatique. En anglais, Climate Overshoot Commission, qui rassemble, je dirais, des figures qu'on qualifierait de sages, d'anciens ministres de l'Environnement, d'anciennes chefs d'État, et vous avez une sorte de quinzaine d'éminences qui se penchent sur, en gros, ces solutions extrêmes. Que se passerait-il si nous atteignions ces points de non-retour, ces points de dépassement climatique? Et un des sujets dont traite cette commission, c'est évidemment la question de la géo-ingénierie, qui est considérée évidemment dans le cadre de cette commission comme une sorte d'option de dernier ressort en cas de dépassement climatique et d'atteinte de seuil de non-retour. Mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si vraiment nous devons considérer la géo-ingénierie comme une option de dernier recours en cas de dépassement climatique, ou s'il ne serait pas utile de légiférer dès maintenant, de manière à savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il me semble en tout cas, et sans vouloir prendre ici de position définitive, que le débat gagnerait à être davantage exposé au grand public, et c'est pour ça que je remercie les organisateurs d'avoir mis ce sujet à l'agenda aujourd'hui, parce qu'il me semble qu'il s'agit d'un sujet important vis-à-vis duquel le public doit être informé, de manière à pouvoir avoir un débat serein et démocratique sur ce qui est autorisé ou non. Et il me semble aussi que nous gagnerions beaucoup à pouvoir davantage différencier les techniques et les technologies, de manière à pouvoir discuter de chacune d'entre elles et de ses mérites et risques comparés, plutôt que d'en discuter uniquement sous l'angle du label géo-ingénierie, qui, comme je vous l'ai montré, rassemble des techniques qui, au fond, ont assez peu de choses à voir les unes avec les autres. Il me semble en tout cas que c'est dans cette voie que nous pourrions aller et que c'est ça qui permettrait de construire, je l'espère, le débat public le plus transparent et le plus informé possible, qui, je l'espère, est vieux fantasme de chercheurs qui ne regarderaient pas l'actualité ni les chaînes d'info, qui croient encore que le débat éclairé peut amener à prendre de meilleures décisions. Voilà, merci beaucoup.